France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
8h36 avec la partie culturelle de ces matins d'été pour évoquer le chantier de Notre-Dame en votre compagnie. Didier Durand, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes un grand spécialiste de la restauration des lieux du patrimoine français. Vous avez beaucoup travaillé au Louvre, au pavillon Marsan, dans la cour Carrée, au palais Garnier, au petit Trianon à Versailles. Et puis donc désormais à Notre-Dame. Actuellement, vous êtes en charge de la maçonnerie et de la taille de pierre. Alors, Notre-Dame, on a notamment parlé cet été beaucoup pour cause de cette pollution au plomb. Où en est-on aujourd'hui avec cette question, Didier Durand?
Alors nous avons repris le travail depuis lundi, après 3 semaines d'arrêt, pour pouvoir remettre les baraquements d'une manière beaucoup plus homogène et de pouvoir mettre des protocoles de douche nous permettant d'intervenir. Il faut simplement savoir qu'auparavant, tout chantier, on le prépare. On y fait les baraquements, vous-même aujourd'hui à la maison de la RTF ou de la radio maintenant. Et oui, quand on a 59 ans, on a effectivement de temps en temps...
C'est toujours
lent. Voilà, voilà.
Les travaux ont dû commencer à cette époque.
Généralement, on fait des baraquements et on le fait par rapport aux travaux. Or là, malheureusement, l'incendie étant survenu, on s'est retrouvé à faire des travaux sans des baraquements. Et nous étions, à un moment donné, pas loin de 130 sur le terrain, avec un baraquement de 20 personnes, puisque les travaux de la flèche qui avait été lancée, il y avait sensiblement qu'une vingtaine de personnes. Donc il a fallu remettre en place des process.
Mais attendez, parce que très rapidement, il y a eu l'ONG Robin des Bois qui a alerté l'opinion publique sur ces risques de pollution au plomb, et cette ONG n'a pas du tout été écoutée, alors qu'on savait, pas besoin d'être un grand spécialiste pour savoir qu'il y avait du plomb à Notre-Dame.
Vous êtes 200 tonnes de couverture de plomb, c'est évident qu'après le feu, il y en a une partie qui est partie dans les airs, ça c'est évident. Il y en a encore une partie qui reste sur les voûtes, et c'est pour la raison que notre inquiétude avec l'architecte en chef, et y compris d'ailleurs le ministère de la Culture, donc l'architecte en chef Philippe Villeneuve, est très inquiet parce qu'il faut pouvoir aller, dans un premier temps, retirer les échafaudages, mais en même temps retirer toutes les poussières et tous les résidus de plomb qui sont sur les voûtes. Donc effectivement, nous, dès le 16, en tant que patron, et nous sommes responsables de la sécurité et surtout du bien-être de nos compagnons, nous avons pris toutes les dispositions pour que nos compagnons puissent être suivis. Et nous avons fait faire des plombémies, donc ce sont des prises de sang. Au lieu de les faire tous les 6 mois ou tous les 3 mois, on les fait tous les mois.
Mais ce qui veut dire qu'il y a déjà des ouvriers qui ont été intoxiqués, ceux qui travaillent sur les vitraux, par exemple?
Non, justement, parce que nous avons l'habitude, quand nous faisons, et c'est là qu'il faut remettre... Je vous remercie de me donner la parole parce que c'est là qu'il faut impérativement remettre les pendules à l'heure. Nous, en tant que patrons, les maîtres verriers qui ont l'habitude de travailler sur des vitraux qui sont au plomb, nos compagnons qui ont l'habitude aussi de travailler, les compagnons du GMH et les compagnons de toutes les entreprises, on a l'habitude de ce genre de process et donc on s'est mis en combinaison, on a mis des process qui étaient en place. Il a fallu effectivement faire livrer d'urgence des douches. Là, les 3 semaines d'arrêt n'ont été que de pouvoir le faire en sorte de mettre en place un cotonnement de process. Le ministre du Travail, donc Muriel Pénicaud, avec, accompagné du préfet de région d'Île-de-France, Michel Cateau, sont venus lundi après-midi constater et faire eux-mêmes le process complet, y compris jusqu'à la douche, y compris de la décontamination. Il faut rappeler, et ça c'est très
donc
important...
Vous êtes affirmatif là-dessus, parce que il y a des propos contradictoires. J'ai lu des choses sur la contamination.
Nous n'avons pas un seul salarié contaminé à Notre-Dame de Paris.
Alors je vais le dire autrement, des taux de plombémie dans le sang de certains de ces ouvriers ayant intervenu sur les vitraux notamment, qui seraient supérieurs aux moyennes autorisées.
Alors, Il faut rappeler. Alors, on va faire un petit élément. Et moi-même, j'ai fait faire une prise de sang pour me vérifier. Moi qui ai été même le lundi 15 dans la nuit au combat du feu, où il y avait des poussières. Et du 16 jusqu'au 21 juillet, j'étais présent sur le terrain, y compris les samedis, y compris les dimanches. Je n'ai que 55 mg dans mon sang. Il faut savoir que pour un homme, c'est vous êtes plombé à 400. Et généralement, on commence à s'interroger à 200, c'est-à-dire à la moyenne. Mais tant que vous n'êtes pas à 400, vous n'êtes pas non plus plombé. Pour les femmes, on descend, on passe de 200, et donc la moyenne, c'est 100. J'ai eu deux femmes en tant que
l'entreprise. Vous étiez avec votre fille lors de l'incendie.
Oui, mais c'était à titre personnel. C'était pas du tout là. C'était pas l'entrepreneur qui parlait. C'était parce que nous avions effectivement commencé un chantier le matin, du 15 au matin sur l'arc Boutan 10 de la culée 10, et nous avions deux compagnons sur le terrain. Et là, ce coup, quand on voit par les réseaux sociaux ce qui s'était passé, il fallait impérativement que j'y aille. Mais c'est à titre personnel et c'est mes tripes qui ont parlé ce jour-là.
Bon, donc voici pour le dossier du plomb. Il y a donc aujourd'hui eu une reprise des travaux. Vous intervenez, je l'ai dit, notamment en matière de maçonnerie et de taille de pierre, avec là aussi une situation assez particulière, puisque le feu et l'action conjuguée de l'eau pour éteindre le feu ont endommagé l'édifice. Aujourd'hui, on sait précisément, Didier Durand, dans quelle mesure Notre-Dame a été fragilisée par ces deux événements consécutifs.
Oui, un diagnostic assez rapide a été fait par Philippe Villeneuve et les architectes qui l'accompagnent. Nous avons effectivement aujourd'hui une problématique, ce sont les voûtes. Voilà, d'une manière très claire. Nous n'avons plus de bois, nous n'avons plus de charpente, et nous devons avoir les murs goutreaux qui poussent de par les arcs boutants. Donc il a été décidé de fabriquer des cintres bois pour que les arcs boutants puissent être mis sur cintre. Ensuite, on envoie des planchers qui seront sur la partie supérieure pour remplacer, en fin de compte, une partie de la charpente pour pouvoir mettre du poids. Quand vous avez 500 tonnes sensiblement sur la cathédrale pendant 800-850 ans sur la tête, quand d'un seul coup je vous retire ces 800, ces 500 ou 600 tonnes, vous avez la nécessité de vous relever. Si je vous appuie sur la tête, vous allez vous relever, et ce qui est logique, Notre-Dame de Paris peut faire la même chose. Et il est important qu'on ne perde pas les voûtes. Et ça, c'est notre action première, parce que si nous perdons les voûtes, on va se retrouver dans l'état où les arcs-boutants vont pousser. Et notre grande crainte, je ne veux pas être alarmiste, mais je l'ai formulée, c'est qu'on ne se retrouve pas devant les deux tours jumelles de New York, avec effectivement un amalgame de poussière énorme, parce que ça sera une véritable catastrophe. On perdrait les murs goutreaux. Et là, on a encore du plomb. Donc la catastrophe serait encore multipliée, à mes yeux, par 1000.
Ça veut dire qu'on a été trop optimiste au début, parce que on a dit, voilà, la charpente, de toute façon, elle est indépendante des murs, et donc les voûtes ne sont pas soutenues par la charpente. La disparition de cette charpente ne va pas fragiliser l'édifice. On a eu tort, Didier Durand?
Non. On n'a pas tort. La seule chose, c'est que les voûtes aujourd'hui ont pris un coup de chaud, c'est-à-dire qu'on est monté à 850, voire 1200 degrés, où les pompiers, à juste titre, ont voulu refroidir les pierres en les mouillant. Et on s'est retrouvé devant, effectivement, un état de chaud et froid. Il faut savoir que, chimiquement, quand vous faites de la chaux pour faire les joints entre les pierres, puisque c'est pas du ciment, c'est de la chaux, on prend de la pierre et on la fait monter à 850 degrés. Tiens, c'est bizarre, on est à 850 degrés. Et on passe de pierre à la chaux. Et ensuite, on la met dans l'eau pour éteindre la chaux. Et ben là, on est dans un process qui est presque naturel, mais si on devait perdre les joints, on perdrait les voûtes.
Ce qui veut dire là aussi qu'aujourd'hui, Didier Durand, on n'a pas encore commencer les travaux de restauration de Notre-Dame. On en est juste à tenter de sécuriser l'édifice.
On est complètement dans l'état de sécurisation. On n'est pas du tout, et d'ailleurs les architectes et Philippe Villeneuve avec Rémi Fromont et et Pascal Prunet sont en train de réfléchir à concevoir des appels d'offres et à concevoir des dossiers, mais qu'ils seront malheureusement, après la sécurisation de Notre-Dame, lancés. Et je pense, en toute objectivité, il faudra peut-être leur demander, mais pour moi, je pense que c'est plutôt deuxième semestre 2020 que la restauration va pouvoir se lancer. Il faut qu'on puisse sécuriser toute notre cathédrale avant de se lancer dans une restauration.
Mais alors 2024, est-ce un objectif viable ?
Alors, c'est un objectif viable. Moi, ce que j'ai entendu, mais je rentre pas dans une polémique, je fais pas de politique, j'ai entendu, on rendra la cathédrale au culte dans les 5 ans. Et je pense que c'est jouable. Nous avons perdu
différent d'une cathédrale parfaitement rénovée.
Alors une cathédrale parfaitement rénovée, quand si vous faites un tour, et malheureusement j'ai fait plus qu'un tour, j'ai presque été baigné pendant plus de 3 mois, Notre-Dame de Paris, y compris son trésor, son presbytère, tous les arcs-boutants, et tout était déjà pas très belle, c'est une vieille dame, il faut impérativement, il y avait d'ailleurs toute une campagne de restauration, je pense en toute objectivité, que ça nécessitera quelques années pour continuer à embellir Notre-Dame, comme il avait été prévu avant cet incendie.
Quelques années
complémentaires, oui, parce que je rentrerai pas dans cette polémique, mais on peut difficilement tout vouloir reprendre de partout. On est aussi dans un jeu d'équilibre, même si on devait multiplier et mettre 1000 compagnons sur le terrain en taille de pierre pour pouvoir le faire. Oui, mais je crois qu'il est important de prendre point par point on a 15% des voûtes à faire aujourd'hui, et c'est déjà un travail assez considérable.
Justement, en termes de taille de pierre, puisque c'est ce que vous maîtrisez particulièrement,
oui.
Didier Durand, aujourd'hui, est-ce que les techniques qui sont utilisées permettent d'aller plus vite qu'au moment où la cathédrale a été construite ? Comment s'y prend-on pour travailler sur des pierres telles que celles de Notre-Dame ?
Oui, on a des techniques, et heureusement, et c'est ça qui fait justement la force de nos métiers, la formation avec le groupement des entreprises de monuments historiques, le GMH, nous avons mis en place tout un système pour mécaniser certaines choses qui vont aussi dans le bon sens vis-à-vis de nos compagnons, parce qu'il n'est pas question de se tuer à l'œuvre, et nous avons une valeur de pouvoir continuer à tailler à la main, mais de pouvoir, j'allais dire, travailler mécaniquement sur cette restauration.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'on fait qu'on ne faisait pas jadis ? Comment s'y prend-on pour respecter les formes tout en allant plus vite que ce qui était fait auparavant ?
L'avantage que nous avons dans un premier temps, c'est que nous avons une cathédrale qui est complètement scannée, donc on a la possibilité d'un scan, de pouvoir le passer sur une machine-outil, et de pouvoir lancer cette machine-outil qui va pouvoir venir à quelques millimètres précisément de pouvoir le refaire. La main de l'homme, on en a toujours besoin parce que sinon c'est quelque chose qui ne serait pas très joli. L'homme fait vivre, l'homme fait et la main est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut pouvoir maintenir. Il faut gagner, et on va gagner du temps, et on va gagner aussi en labeur parce que tous nos compagnons ne doivent pas se partir à la fin de leur carrière avec des problèmes de dos ou des problèmes de main.
Mais alors, votre problème en maçonnerie, ça n'est pas tant de façonner de nouvelles pierres que de solidifier celles qui sont déjà présentes, ou il va falloir en remplacer ?
Les deux, c'est-à-dire que même au temps des cathédrales, vous aviez celui qui posait, celui qui taillait la pierre et celui qui la posait. Et vous aviez même un troisième métier qu'on a complètement perdu aujourd'hui, c'était celui qui faisait et qui construisait, qui fabriquait le mortier. Parce que c'était un véritable job. Il fallait effectivement faire des dosages intéressant, précis, avec tel chaud, avec tel sable, avec donc dans la maçonnerie, nous allons avoir effectivement à faire ce genre de travail. Les tailleurs de pierre vont refaçonner les différentes pierres, refaire des dessins. Il y a effectivement beaucoup de travail, et ça nécessitera, je pense, beaucoup de vocation, et j'invite un paquet de gens, mais on en aura besoin aussi bien dans tous les corps de métier, et ça c'est quelque chose de passionnant. Je le dis, et si je peux me permettre, c'est nous on a la chance d'avoir un métier quand d'autres ont un emploi. Il y a une grosse différence d'avoir un emploi et d'avoir un métier, parce que vous ne serez jamais au chômage, et vous aurez la fierté tous les soirs de dire « j'ai fait ».
Alors vous, vous êtes plutôt dans le métier de la pierre. Il y a eu de nombreuses polémiques après l'incendie. On a notamment évoqué d'autres possibilités pour reconstruire la charpente. Alors il y avait des arguments en faveur d'une charpente métallique, d'autres d'une charpente en béton. Aujourd'hui, le sujet semble réglé définitivement. Ça sera une charpente en bois ?
C'est au président de la République, au ministre de la Culture et aux différentes
le
personnes.
Le président de la République a des compétences en matière de charpente en bois ?
Non, mais tout simplement, il a sûrement une vision et il représente un petit peu, j'allais dire, ce que la France veut. On l'a vu dernièrement, il y a des éléments où il faut impérativement qu'il puisse nous dire ce qu'il veut faire. La seule chose qu'on peut lui donner comme conseil, s'il veut qu'on refasse une charpente dans 5 ans, ça serait bien qu'on ait les mêmes poids, comme je vous l'expliquais tout à l'heure.
Donc qu'elles soient en bois.
Pour moi, il me semblerait intelligent, parce que si on modifie les charges, si on met du béton, si on met de la ferraille, si on met tout autre matériau, on va être dans une problématique de poids qui va être totalement différente.
Mais alors les arguments en faveur des ferrailleurs, ceux qui voulaient une charpente en ferraille, disaient bon, au moins celle-ci, elle ne brûlera pas à nouveau.
Ah ben, une charpente en métallique, c'est encore pire, parce que vous avez beaucoup moins de... Le feu vous fait fondre les tubes d'échafaudage, comme on a pu le voir, et c'est encore pire dans le temps. Le bois,
mais
c'est
si
consumé.
Si vous avez de la pierre et du métal, il n'y aurait plus rien à brûler.
Non mais reprenez, si on change si on met du bois à la place de la ferraille, on se retrouvera avec le même feu, pareil. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, si j'ai bien saisi, il peut y avoir un problème électrique, il peut y avoir, vous savez, on pourrait faire un diagnostic de tous les combles des cathédrales et toutes les églises. Allez-y, rentrez dedans et vous verrez, il y a plein de choses qui peuvent brûler parce que on laisse plein d'éléments, les combles, on s'en occupe, on met plein de d'éléments qui devraient normalement être retirés.
Donc ça ne serait pas une solution, mais par ailleurs, il y a bien évidemment la question de savoir si on reconstruit à l'identique. Vous qui avez, Didier Durand, eu l'occasion de travailler sur un grand nombre de chantiers qui sont des chantiers mythiques dans le patrimoine français, je les ai cités, le Palais Garnier, le petit Trianon à Versailles. Bref, les choix qu'on fait, c'est toujours de reconstruire à l'identique. Quelle marge de manœuvre on se laisse ?
La charte de Venise est très claire dans la mesure où nous avons tous les détails et nous avons toute la charpente qui a été dessinée à la main, y compris jusqu'à la moindre petite cheville. Normalement, de par la charte de Venise, on devrait refaire à l'identique. Voilà. Maintenant, on peut faire autrement. Demain, l'Opéra Garnier vient.
Le petit Trianon, par exemple, il est à l'identique ?
Alors, le petit Trianon n'a pas brûlé.
Bien entendu, mais lorsque vous l'avez restauré.
Non, mais quand on fait une restauration, on essaye toujours de rester sur une année. On peut rester, il y a eu une période sur tel et tel édifice, on essaye de se caler, soit c'est sur le 16e, 17e, 18e siècle, mais on ne fait pas un patchwork généralement des différentes restaurations.
Oui, alors bien entendu, le petit Trianon n'a pas brûlé, mais Versailles était conçu pour recevoir 3000 courtisans. Il y a aujourd'hui des millions de visiteurs. Il y a donc de nouvelles contraintes qui sont imposées sur ces bâtiments. Est-ce que aujourd'hui, dans votre manière de concevoir, vous, Didier Durand, qui êtes intervenu dans un grand nombre de lieux où l'on reçoit du public, le Louvre, le Palais Garnier, bref, comment restaure-t-on ces monuments pour qu'ils soient à la fois fidèles au passé et adapté à l'usage qu'on en a au présent.
Si vous regardez le Louvre, on aurait pu très bien revenir sur Philippe. On revenait avec du côté moyenâgeux.
On a pris du côté de Philippe Auguste alors.
Philippe Auguste, pardon. Et on aurait pu très bien se dire, on change. Non, on est resté dans l'esprit du Louvre. Paye à juste titre a fait une ouverture qui n'existait pas de la pyramide, mais vous n'avez pas pour autant modifier les façades, modifier les couvertures. On les a adaptées et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Notre-Dame de Paris, pour moi, il faudrait, mais c'est à titre personnel, la refaire comme elle était, et surtout aménager le parvis, les routes autour, pour pouvoir embellir et qu'on ne soit pas, peut-être avec supprimer quelques voitures, peut-être embellir le parvis et qu'on ait même une crypte qui se trouve en dessous, beaucoup plus moderne. Voilà, c'est.
Mais et c'est la flèche, on en parle de la flèche, Didier Durand.
La flèche, c'est une flèche de Viollet-le-Duc. Pour moi, elle fait partie de Notre-Dame, mais je ne suis pas ni architecte, ni, comme je vous l'ai dit, ministre de la Culture, ni président de la République, qui prendront des décisions. Et nous, en tant qu'entreprise, on exécutera, on répondra d'ailleurs à des appels d'offres qui vont être lancés, et on répondra aux exigences et à la ligne directive qui sera lancée.
Et en termes, là aussi, d'autres restaurations, parce que l'argent qui a afflué sur Notre-Dame a fait dire qu'il y avait un certain nombre de monuments, d'autres monuments qui étaient délaissés pour compte. Par exemple, la basilique de Saint-Denis, qui est pourtant très proche de Notre-Dame, en est très éloigné sur le plan budgétaire, Didier Durand.
Je crois qu'il a été très clairement positionné. La loi a été votée. Et tous les fonds qui sont dédiés à Notre-Dame de Paris, de par les donateurs, seront à Notre-Dame de Paris. Mais là, pareil, je ne suis qu'une petite entreprise.
Merci beaucoup, Didier Durand. Je rappelle que vous êtes patron de l'entreprise Pierre Noël, qui intervient en ce moment même sur le chantier de Notre-Dame en maçonnerie et en taille de pierre. Merci d'avoir été avec nous ce matin.